C'est la machine qui fait rêver les informaticiens et les physiciens du monde entier. L'invention la plus folle de tous les temps. Imaginez un super ordinateur capable d'utiliser les propriétés quantiques de la matière pour exécuter des calculs démesurés en développant une puissance phénoménale par rapport aux ordinateurs classiques. Depuis plus de 30 ans, l'ordinateur quantique est au cœur de tous les fantasmes. Alors science-fiction ou déjà réalité, c'est le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités. Rediffusion d'une émission enregistrée le 15 mars dernier. À la une de la science, les catastrophes naturelles, un nouveau facteur de démence. Bonjour Agnès Fèvre.
Bonjour Mathieu. Les catastrophes naturelles peuvent provoquer un stress post-traumatique chez les victimes, mais des chercheurs viennent d'identifier une autre conséquence psychologique, la démence. Les risques de démence se sont en effet accrus au Japon après le tsunami, et notamment chez les personnes âgées qui ont perdu leur maison.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin, consacrée à un drôle de phénomène, l'impact des congrès de cardiologie sur la mortalité des maladies cardiaques. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le rêve de l'ordinateur quantique, c'est donc aujourd'hui le dossier de l'émission. Mes invités pour nous parler de cette machine fabuleuse, Pascal Senlar, Antoine Brouwers et Benoît Valiron. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Pascal Senlar, l'ordinateur quantique, alors c'est dans le domaine de la fiction ou plus tout à fait?
Je pense qu'on sort de la fiction. Clairement, il a déjà été vendu, il s'appelle D-Wave.
Ah oui, donc ça y est.
Qu'il soit vraiment quantique, c'est encore une vraie question. Mais dans les laboratoires, on commence à voir des petits ordinateurs quantiques, pas petits par la taille,
oui, c'est ça.
Mais petits parce qu'ils savent faire pour l'instant. Ouais. Mais je pense qu'on s'approche de plus en plus vers quelque chose de concret et les progrès sont très spectaculaires.
Antoine Brouwers, qu'est-ce qui fait encore figure d'obstacle justement pour la création d'un véritable ordinateur quantique?
Ben ça, on aimerait bien le savoir. Il y a deux types d'obstacles à mon avis. Les premiers obstacles sont les obstacles technologiques. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de défis à relever pour arriver à maîtriser, on va en parler, mais cette superposition quantique qui est à la base de l'ordinateur quantique. Ouais. Et alors la question peut aussi être plus fondamentale. Il peut y avoir une vraie limite fondamentale qu'on n'a pas encore atteinte, qui serait la physique quantique ne serait pas la théorie ultime. Il y aurait quelque chose derrière et au bout d'une certaine taille, d'un certain nombre d'atomes à manipuler, la physique quantique s'effondrerait. Et bon. Ça, on ne sait absolument pas la réponse aujourd'hui.
Et Benoît Valiron, qu'est-ce que va permettre de réaliser un tel ordinateur que les machines actuelles, évidemment, sont incapables de faire?
Donc si la physique quantique ne s'effondre pas lorsqu'on a suffisamment de mémoire quantique pour le faire, en théorie, l'idée, c'est de pouvoir réaliser des algorithmes qui tournent beaucoup plus vite que les algorithmes classiques et donc de répondre à des questions que l'on n'est soit pas capable de répondre à l'heure actuelle, auxquelles on n'est pas capable de répondre à l'heure actuelle, ou alors qui prennent beaucoup trop de temps.
Voilà, donc tout ça va aller de plus en plus vite, c'est absolument vertigineux. On va se retrouver dans un instant pour tenter de percer les secrets de cet ordinateur quantique ensemble avec les messages des auditeurs. Et à la une de la science aujourd'hui, l'augmentation des risques de démence après le tsunami japonais, 2 ans et demi justement après ce tsunami de mars 2011. Une équipe de chercheurs de l'école de médecine d'Harvard, Chan, s'est rendue au Japon pour étudier les conséquences psychologiques de ce raz-de-marée dévastateur sur les personnes âgées. Leurs résultats sont parus dans la revue PNAS. On apprend notamment que perdre sa maison et être placé dans des abris provisoires a des effets inattendus et augmente les risques de démence. Bonjour Bruno Millet.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes professeur de psychiatrie adulte à l'université Paris 6 et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est la première fois, Bruno Millet, que des chercheurs font un lien entre catastrophe naturelle et risque de démence?
Écoutez, à ma connaissance, c'est la première fois et c'est effectivement ce qui est original dans cette étude, c'est qu'il s'agit d'un lien direct entre l'augmentation de l'incidence des démences et une catastrophe naturelle. Pour moi, c'est un peu surprenant. J'avais plutôt la notion de l'impact de la catastrophe naturelle sur la survenue d'états de stress post-traumatique,
oui.
mais sur des syndromes démentiels à proprement parler. À ma connaissance, ces choses-là n'avaient pas été documentées, sauf par le biais des états de stress post-traumatique, justement.
Et justement, quel type de symptômes apparaissent chez les personnes âgées après le tsunami?
Alors, les symptômes qui sont décrits dans l'article, c'est d'abord les personnes ont été, c'est une cohorte de personnes âgées qui ont été examinées, et il apparaît des troubles de la mémoire, des difficultés d'orientation dans le temps et dans l'espace, des difficultés de communication, Et puis, les auteurs de cet article ont également évalué les troubles mentaux et du comportement qui accompagnent cette altération des fonctions cognitives. Et donc, ils ont examiné les éléments délirants de persécution, ils ont examiné aussi la tendance des patients à la aux confabulations, et ils ont conclu que eh bien il y avait un impact direct entre justement la survenue de ce tremblement de terre et l'apparition donc de détériorations cognitives plus importantes chez les gens, en particulier qui avaient vu leur maison détruite.
Un des résultats de cette étude, c'est que c'est davantage la perte d'une maison qui va choquer les personnes âgées plutôt que la perte d'un être cher, par exemple.
Alors ça, c'est surprenant, mais en même temps, je pense que les auteurs ont voulu éliminer toutes les questions liées au deuil. Et au deuil pathologique, notamment, qui sont presque des équivalents de dépression. Et on sait que les deuils pathologiques, quand vous perdez quelqu'un de proche, un ami, un frère, dans une catastrophe, c'est évidemment extrêmement douloureux. Et souvent, vous êtes confronté à des états de deuil. Et des états de deuil qui sont, sur le plan symptomatique, très comparables à des états dépressifs sévères. Et on sait que ces états-là sont souvent des états que l'on peut confondre avec des débuts de démence également.
Alors justement, Bruno Millet, comment on fait le lien direct entre ces états de démence et le tsunami japonais? Quelle a été la méthodologie pour étudier ces cas particuliers chez les personnes âgées?
Alors en fait, ils se sont, c'est très intéressant parce que ils ont effectué une étude de cohorte prospective sur une communauté de sujets âgés, et je dois dire que l'originalité de cette étude repose là-dessus, c'est-à-dire que il est rare que l'on fasse ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà programmé, c'est dans le cadre des études épidémiologiques en population générale qu'ils menaient, et ils ont mené donc en 2010 une étude en population générale sur une large cohorte de sujets âgés de plus de 65 ans.
Donc avant le tsunami, hein ?
Avant le tsunami. Puis le tsunami a lieu en 2011, hein, si les informations sont,
mars 2011.
Sont correctes. Et puis, ils réévaluent les patients 2 ans et demi après le tremblement de terre. Et ils vont notamment réévaluer 3594 survivants. Et l'originalité et la force de cette étude, outre le fait que ça soit une étude prospective, c'est que les examens se font par des soignants, des médecins, hein, qui se déplacent à domicile et qui vont mener un examen complet et qui vont pouvoir conduire à l'établissement d'un diagnostic.
Les cas de démence passent de 4% en 2010, avant le tsunami, à 11,5%. C'est une augmentation inquiétante, monsieur Millet ?
Significative, oui.
Alors, c'est une augmentation significative, et pour vous donner un ordre d'idée, on considère que la prévalence, le nombre de personnes souffrant de démence au-delà de 65 ans, est de 5%. Et en 2 ans, donc là, les cas de démence qui sont évalués dans la population considérée sont de, le pourcentage est évalué à 4,1%. Et en 2 ans, vous voyez, ils augmentent, le pourcentage augmente considérablement de plus de 6%.
Bruno Millet, est-ce que la culture et le mode de vie japonais sont à prendre en compte justement pour comprendre certaines questions liées à ces situations de stress?
Très certainement. Enfin, ça, c'est vrai que ça, c'est une limite, hein, de l'étude. C'est l'intérêt de prendre en compte le facteur culturel et peut-être en particulier le fait que les Japonais soient peut-être plus attachés particulièrement à leur voisinage, à leur maison. Encore que je connais peu de populations qui ne soient pas attachées à leur population.
Habitation.
À leur habitation et à leur voisinage, à leur lieu de vie. Je pense que c'est un aspect qui est quand même très important. Et de voir sa maison détruite, c'est être souvent obligé d'être relogé, c'est quand même un traumatisme important. Mais peut-être il n'est pas à exclure que dans une communauté insulaire de surcroît comme les Japonais, cela soit un traumatisme peut-être encore plus important que dans d'autres pays. Donc l'aspect culturel est certainement à prendre en compte. Ça ne doit pas nous empêcher, à mon avis, de réfléchir à l'impact que peut avoir une catastrophe comme ça naturelle sur le fonctionnement psychique et mental des patients.
Ça veut dire qu'on peut transposer ces résultats dans d'autres situations ?
Ben, j'aurais tendance à dire que ces résultats, en tout cas, peuvent être transposables, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ils interrogent surtout ils nous font réfléchir sur l'impact cérébral que peut avoir un traumatisme comme celui d'un tremblement de terre avec le tsunami. C'est un phénomène qui survient brutalement, en rupture avec les habitudes des sujets et qui entraîne un stress considérable.
Merci beaucoup Bruno Millet pour votre décryptage. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Merci beaucoup à vous.
Avec plaisir.
Merci Agnès.
Merci Mathieu.
Et à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, y aurait-il des volcans encore actifs sur Vénus ? La question taraude notamment des chercheurs du Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique qui avancent pour l'heure la piste d'un volcanisme récent. En combinant des données sur la surface de Vénus fournies par la sonde Magellan et par la sonde Vénus Express, et grâce à de nouvelles techniques, ils ont élaboré une cartographie géologique de haute résolution et ils ont ainsi pu identifier des coulées de lave sur le flanc supérieur oriental de l'Idun Mons. C'est un volcan de 200 kilomètres de diamètre, situé dans l'hémisphère sud de la planète Vénus. Les suricates intéressent décidément beaucoup les chercheurs. En septembre, Nature dévoilait que ce petit animal de la famille des mangoustes, qui vit surtout au sud-ouest de l'Afrique, était l'espèce de mammifère la plus meurtrière. Cette fois, c'est aux femelles que les chercheurs se sont intéressés. Pourquoi sont-elles si dominantes, voire tyranniques et agressives, au point d'attaquer leur père pour voler leur nourriture ? En analysant les hormones sexuelles de 37 femelles, les chercheurs ont constaté qu'elles avaient deux fois plus de testostérone que les mâles, et ça n'est pas forcément un avantage, il se pourrait que cette surabondance d'hormones mâles affaiblisse leur système immunitaire, comme le révèle leur étude parue dans la revue Biology Letters. Et puis un nouvel argument pour lutter contre le braconnage d'éléphants en Afrique, c'est l'économie tout simplement. Mettre fin au massacre des éléphants qui alimentent le commerce de l'ivoire permettrait de générer chaque année 23 millions d'euros de revenus dans le tourisme, selon une étude parue dans Nature Communication. On y apprend que la population des éléphants d'Afrique a diminué de 30% entre 2007 et 2014 à cause du braconnage. Or les touristes sont plutôt attirés par les pays où se trouvent de grands parcs d'éléphants. Et chaque animal supplémentaire augmente les visites de 371%, c'est ce qu'on calcule en tout cas les chercheurs, et conclut ainsi que le manque à gagner pour le tourisme est donc substantiel. Voici les enfants du Pirée, Dominique A, et notre dossier sur l'ordinateur quantique juste après.
Brouillé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du pied. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que les filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leur bonnet ange tous les visages d'anges des enfants. l'enfant du pirée.
Rappel historique. À la fin du 19e siècle, la nécessité de la théorie quantique naît de l'incapacité admise de la physique dite classique à déchiffrer l'infiniment petit. Et c'est alors que Planck, pour la première fois, émet l'hypothèse de la discontinuité des échanges d'énergie, d'émission et d'absorption et de leur caractère proportionnel aux fréquences des énergies. Alors, vous avez ici la formulation DE égale NHV ou DE, les échanges d'énergie, d'émission, d'absorption, N, un entier, H, le fameux quantum d'action, on y reviendra, et V, la fréquence de la lumière. Voilà, pardon mille fois de revenir hein, sur des notions un petit peu élémentaires.
Voilà, ça c'est pour nos invités, pour les mettre dans le bain de notre discussion, pour mettre un petit peu de pression, pour essayer de vulgariser au mieux, et comme Alexandre Astier, la question quantique avec cet ordinateur entre rêve et réalité. C'est le dossier donc aujourd'hui de la Tête au Carré, hein, pour comprendre ce qu'est ou ce que sera cette machine que certains présentent comme l'invention la plus folle de tous les temps. Pascale Sennelard, vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire de photonique et de nanostructure. En 2014, vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS pour votre travail sur les boîtes quantiques. Antoine Brouwer, vous êtes physicien, directeur de recherche au laboratoire CNRS Charles Fabry, et vous êtes spécialiste de la physique quantique et de la manipulation des atomes par faisceau laser. Et puis Benoît Valiron, vous êtes informaticien, enseignant, chercheur à l'école centrale Supélec, attaché de recherche au laboratoire de Paris-Saclay. Et les auditeurs nous rejoignent déjà avec beaucoup de questions sur le site de la Tête au Carré, donc franceinter.fr, et le mot-clé l'attaque. Alors, programmer l'improgrammable, déchiffrer l'indéchiffrable, ce sont donc des promesses de l'ordinateur quantique, avec des capacités de calcul démesurée en perspective. Tout le monde en rêve, en tout cas c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est votre cas à vous tous, Pascale Sennelard?
Ah, je pense que pour faire le travail que nous faisons, il faut y croire un petit peu, oui, et avoir envie de le voir devenir réalité, avoir envie de le voir arriver dans notre quotidien.
Oui.
Je pense que...
Ça va vraiment bouleverser la vie de monsieur, madame, tout le monde, ou pas, Antoine Brouwer?
Ça, c'est pas encore complètement sûr. On cherche encore à quoi est-ce qu'il va bien pouvoir servir. Mais si vous voulez, beaucoup des pionniers de l'informatique ou d'autres technologies qui ont été inventées au cours de l'histoire de l'humanité, comme par exemple le laser, se demandaient un peu à quoi allait servir leur découverte. Donc on en est un peu là aussi. Donc simplement, en tant que physicien, on en rêve. On en rêve pour le degré de contrôle que ça vous donne sur des systèmes quantiques extrêmement petits, et pour toutes les implications conceptuelles que ça a sur la façon de comprendre ce que veut dire l'information, comprendre ce que c'est que cette dualité en corpuscule, comprendre ce que c'est ce monde quantique qui nous est si
donc
peu familier.
Il y a à la fois de la très belle recherche fondamentale, et puis des applications pleines de promesses quand même. On a les deux, finalement.
Tout à fait. Comme, encore une fois, comme l'histoire du faisceau laser, qui est une vraie découverte de laboratoire. On en discutera probablement plus tard. La question de que peut faire un ordinateur quantique, on a quelques réponses à ça. Ça permettrait, par exemple, Benoît vous en parlera mieux que moi, mais de pouvoir casser des codes de sécurité. Par exemple, sur Internet, quand vous rentrez votre numéro de carte bleue, il y a un protocole. Ce protocole est sécurisé. Si on avait un ordinateur quantique, on peut le rendre non sécurisé. Donc, il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux qui vont au-delà.
Ou au contraire, renforcer la sécurité.
Ou au contraire, renforcer la sécurité pour d'autres types de technologies.
C'est ça. Pascale Sennelard.
Oui, c'est juste le complément de ce que vient d'écrire Antoine. C'est si jamais on arrive à fabriquer l'ordinateur quantique, il va falloir rendre les systèmes de cryptage plus efficace. Et donc, il y a aussi en parallèle le domaine de la cryptographie quantique qui se développe.
Benoît Valiron, est-ce qu'on est déjà dans l'ère du quantique, dans le domaine de l'informatique?
Alors, du point de vue de la NSA, on y est déjà, puisque la NSA a décidé d'arrêter de financer tout ce qui n'était pas, au niveau cryptographie, tout ce qui était pré-quantique. Donc, il ne s'intéresse plus qu'au post-quantique.
Ouais.
Donc, de ce point de vue, on y est. Du point de vue de l'informatique, du développement des langages, on commence à y être. On part avec un avantage certain par rapport à, mettons, 1920, au développement des premiers ordinateurs, où il n'y avait pas d'informatique. Là, on part avec presque une centaine d'années de développement théorique en informatique. Et donc, on peut mettre tout ce bagage au service, en amont, avant le développement de machines physiques, de langage, de structures de spécification, de vérification, d'optimisation, de compilation, pour que lorsque les physiciens nous amènent un ordinateur, on soit au taquet, prêt à l'utiliser au mieux de ses ressources, essentiellement.
C'est ça. Donc tout le monde se prépare et déjà sur les starting blocks, parce que c'est un vieux rêve, hein, Antoine Breuil, cette machine quantique, qui pourrait, donc on le comprend bien, ridiculiser vraiment les performances de nos ordinateurs actuels. Hein.
Oui, oui, ça, enfin c'est ce qu'on espère. Ouais. En fait, c'est un vieux rêve et c'est intéressant de poser la question en ces termes, parce que c'est en fait l'espèce d'aboutissement d'énormément de travaux de recherche expérimentale dans les laboratoires.
Qui ont commencé quand, à peu près, les tout débuts.
Alors, là aussi, il faut distinguer plusieurs périodes. Il y a eu la période qui a immédiatement suivi la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a mis au point quasiment toutes les techniques expérimentales qui sont utilisées aujourd'hui. Donner un exemple, il y a les ondes micro-ondes, celles qui nous servent à envoyer l'émission radio là aujourd'hui, et il y a également le laser qui est apparu un petit peu plus tard. Et à l'époque, c'était utilisé pour aller sonder les propriétés ultimes de la matière. On envoyait ces ondes, donc c'est un des développements qui ont été faits dans les années 50, 60. Et simplement, ces mesures étaient toujours faites sur des très grands nombres d'atomes à la fois. Donc, par exemple, prenez un gaz, il contient des milliards et des milliards de particules. Vous envoyez votre laser et vous avez une réponse moyenne de toutes ces particules du gaz. Vous n'avez pas accès à un seul de ces atomes. Et puis en parallèle de ça, il y a eu des travaux qui ont été faits pour essayer d'isoler un seul de ces atomes.
C'est ça.
Travaux complètement disjoints. Qui
là,
sont
on est quoi, dans les années 70
Là, on est
plutôt
dans les années 70, ouais. 80. Et donc là, il y a quelques grands noms, dont un nom français qui est Serge Haroche, qui a eu le prix Nobel de physique, qui a des travaux de personnes qui ont essayé d'isoler une seule particule. À l'époque, l'idée était de pouvoir l'isoler pour pouvoir faire une mesure des propriétés de cette particule sans être polluée, entre guillemets, ou influencée par les autres particules qui les entourent.
Ouais. Donc ça, c'est piéger un atome.
Donc ça, c'est piéger
un atome.
Un seul atome. Alors ça a démarré avec un électron. Puis ensuite un ion, parce qu'ils portent une charge électrique, donc ils sont plus faciles à manipuler avec des ions et avec des champs électriques. Mmh. Et puis au début des années 2000, on a commencé à pouvoir isoler un et un seul atome. Et ça, donc, ça a été fait à l'Institut d'Optique par Philippe Grangier pour la première fois. Mmh. Et puis bon, maintenant, il y a très nombreux groupes dans le monde qui font ça. Donc ça, c'est les développements expérimentaux qui ont permis d'aboutir au fait que maintenant, il y avait un vrai système sur lequel on allait pouvoir coder l'information. Alors, il y a d'autres systèmes qui sont apparus depuis, on en reparlera peut-être, les circuits électriques, les circuits supraconducteurs. Et très important, il y a aussi eu en parallèle des avancées conceptuelles. Alors, il y a un grand nom qui est associé à ça, c'est le nom de Richard Feynman, qui a été le premier à anticiper la puissance de ce que pourrait avoir un ordinateur quantique en disant on ne peut pas réaliser un calcul sur nos ordinateurs des propriétés d'un très grand nombre de particules. On sait parfaitement écrire les équations, mais on est simplement incapable, parce que le système qu'il faudrait coder sur ordinateur est trop gros, incapable de calculer ces propriétés. Et il y a un deuxième aspect, on en reparlera probablement avec Pascal tout à l'heure, qui est lié à l'existence de corrélations quantiques, ce qu'on appelle l'intrication. Et là aussi, il y a des physiciens français, en particulier Alain Aspect, qui ont fait des tests tout à fait essentiels qui validaient l'existence de ces corrélations quantiques très fortes, qui sont une propriété utilisée dans tous les algorithmes quantiques, autant qu'on puisse le dire actuellement.
Donc ce que vous nous expliquez au travers de cet historique, c'est que toutes les bases là sont jetées pour pouvoir être capable de fabriquer un ordinateur quantique.
Donc c'est l'exemple du fait que cette idée ne sort pas de nulle part, elle est juste l'aboutissement d'un très grand nombre de travaux. Et je voudrais rajouter un développement technologique qui est aussi un petit peu important, qui est complètement industriel, si vous voulez, ça a été le développement des puces logiques qui sont utilisées dans les ordinateurs. Et il y a une célèbre loi qu'on appelle la loi de Moore qui dit qu'en gros, tous les deux ans, vous doublez la densité de puces sur...
Qu'on a dit récemment que c'était peut-être terminé.
Exactement. Et alors, en gros, on est arrivé au bout. C'est-à-dire que là, actuellement, la taille des plus petits transistors ou portes logiques, c'est une dizaine de nanomètres. Ça comporte une centaine d'atomes. Et là, l'idée, c'est de se dire... On sait que quand on a un seul atome, les lois de l'électricité, les lois qui gouvernent le comportement de nos portes logiques, ne vont plus être valables. C'est gouverné par la physique quantique, et donc l'idée, c'est peut-on retourner l'argument, et plutôt que de voir ça comme une limite, voir ça comme une force, se demander comment est-ce qu'on peut utiliser l'information quantique, qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus.
Pascal Sénelard, il manque rien, hein, au fond. Hein,
il manque quand même, je dirais, un volet plus sur la partie matériaux, les développements, t'as fait l'historique sur la partie laser, micro-ondes, etc. Il y a eu en parallèle, dans les années aussi 80-90, le développement des matériaux semi-conducteurs, qui sont à l'origine de toute l'optoélectronique, qui ont permis de créer des objets quantiques artificiels qui sont déjà dans vos ordinateurs, dans vos, dans vos lecteurs DVD, etc. Ils sont déjà là. Donc, les systèmes ne fonctionnent pas grâce aux lois de la mécanique quantique au sens dont on parle aujourd'hui. Mais il y a déjà des objets quantiques qui ont été introduits et qui sont déjà dans nos technologies. Donc, je dirais qu'il y a aussi en parallèle ces développements technologiques.
Il y a une question de Louis, d'ailleurs. Il demande si l'ordinateur quantique requiert pour fonctionner une mémoire vive et un disque dur à la hauteur de sa capacité de calcul, ou est-ce qu'il se contente d'une mémoire comparable à celle disponible pour les supercalculateurs actuels?
Alors, je pense qu'il y a... En fait, je vais essayer de répondre. C'est une question très compliquée, mais je vais essayer de répondre. En fait, dans les protocoles pour coder l'information, transmettre l'information, etc., on est encore en train de réfléchir à ces choses-là. Et en fait, la durée, la mémoire, la capacité de la mémoire nécessaire pour calculer et réaliser un calcul quantique sophistiqué, c'est quelque chose qui évolue encore. Du côté de ceux qui essayent de fabriquer les composants, on entend ce qu'on nous demande. On dit « Ah, il faudrait telle capacité, etc. » Et cette capacité évolue tous les jours. Donc, d'un point de vue conceptuel aussi, les idées changent. Mm-hmm. Et donc, ce dont on aura besoin n'est pas encore clair.
On est encore en flop, là, ou pas, dans ce domaine? Parce qu'on parle des pétaflops et bien d'autres encore.
Je ne sais même pas si on parlerait...
Ou est-ce que là, il faut carrément inventer d'autres unités?
Je pense que c'est plus la bonne unité.
Oui, c'est ça, la taille des... Enfin, la quantification de l'énergie ou de l'information, c'est-à-dire au sens quel nombre associé à ça devient...
C'est sur le nombre de calculs à la seconde.
C'est sur le nombre de calculs à la... Oui, enfin, c'est ça, et c'est aussi sur la taille de l'information à manipuler, de l'assiste.
Oui. Autre question, autre fait d'ailleurs d'actualité, Christophe nous rappelle qu'en 2011, on mettait en avant le D-Wave avec 100 millions de fois, enfin en tout cas une machine qui allait 100 millions de fois plus vite que les ordinateurs classiques actuels et qui aurait été justement le signe que l'ordinateur quantique était déjà une réalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Valliron? Est-ce que c'est vraiment le début de cette machine ou pas? Il y a un peu de mystère autour de D-Wave justement.
Alors c'est très mystérieux parce que comme c'est une entreprise, ils ont un très bon service de com, parce que c'est ce qui fait qu'ils sont susceptibles de gagner de l'argent. Ouais. Mais ils ont aussi des physiciens derrière et donc c'est pas uniquement des charlatans qui disent on a quelque chose. De fait, ils ont une grosse machine qui semble faire quelque chose.
Ouais. Alors qu'ils ont vendu très cher d'ailleurs. C'était 10 millions de dollars l'ordinateur.
Oui, exactement. Et ils ont quelques clients essentiellement.
Dont Google, je crois.
Alors Google,
il y a Lockheed Martin, Lockheed NSA, Martin, on a acheté. Voilà.
Donc un certain nombre. Donc essentiellement des clients qui sont suffisamment riches pour se permettre d'acheter un joujou et voir si effectivement il y a quelque chose derrière. Enfin, moi c'est comme ça que je le comprends, c'est il y a une grosse machine, finalement qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le plus simple c'est de l'avoir dans son salon.
Ça prend un peu de place quand même, c'est un gros coffre-fort.
Oui mais ils ont de la place, ils ont de la place.
C'est vrai que chez Google on a des grands salons.
Si vous comparez ça à des ordinateurs super puissants, les super calculateurs, c'est à peu près le même genre de taille.
C'est pour donner une idée à peu près.
Par contre il y a un peu plus que 512 bits dans un super calculateur.
Tout à fait.
Pascal Sennelard, alors D-Wave, c'est le premier ordinateur quantique ou pas alors?
Alors je pense que la question est encore ouverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement sûr. Je pense que pendant quelques années, ils n'étaient pas très ouverts à l'idée qu'on puisse vérifier ou pas. Maintenant, ils commencent à laisser les physiciens mettre leur nez dedans. Et la réponse n'est pas encore claire. À quel point le fonctionnement est basé sur ces principes de la physique quantique, ce n'est pas encore complètement clair.
Allez, on se retrouve dans un instant pour savoir comment fonctionnent véritablement ces ordinateurs quantiques. Et puis beaucoup de messages pour vous sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr, pour nous retrouver cet après-midi.
know these feet are crying. This horny goat just keeps on whining. Well, I fear I may have overslept my bounds. I probably should resume my rounds. Now Dr. Fields back in town.
Doctors In avec Son Little.
The human brain was evolved.
Le cerveau humain a mis plusieurs millions d'années à accepter le monde classique. Mais il n'a pas eu l'occasion de se former à ces concepts. Et ce ne sera pas le cas non plus dans un avenir proche. Notre cerveau ne peut pas évoluer aussi vite. Nous ne pouvons qu'accepter les conclusions de la science moderne. Tout cela existe.
Et du fait précisément de cette existence, les scientifiques essaieront sans relâche de concrétiser l'ordinateur quantique dans notre monde réel. Dans 10 ans, peut-être, le premier sera prêt à exécuter une application. Il nous faudra alors abandonner notre vision analytique du monde. Car l'époque des lois de cause à effet sera révolue.
Voilà, extrait d'un documentaire sur l'ordinateur quantique. C'est le dossier de la tête au carré cet après-midi. Pascal Sénard a un commentaire sur ce que vous venez d'entendre.
Oui, le commentaire sur le fait que le cerveau n'est pas complètement équipé pour comprendre toutes les implications de la physique quantique. Je pense que c'est vrai que tous les invités ici accepteront l'idée que c'est complexe.
On finit par s'y habituer à force de manipuler les concepts, mais ce n'est pas une vraie compréhension dans les tripes. Je crois que c'est vrai pour à peu près tout physicien auquel vous allez parler. Il va vous dire...
Oui, il y a des gens qui disent que quelqu'un qui vous dirait qu'il a vraiment compris la physique quantique, c'est quelqu'un qui ment un peu.
Bon, Benoît Valiron, du point de vue de l'informaticien.
Alors, du point de vue de l'informaticien, l'avantage, c'est qu'on peut mettre, l'ordinateur quantique dans une boîte bien fermée avec un joli sigle dessus et le brancher sur un ordinateur classique.
Ah oui.
Et là-dessus, on commence à travailler.
Et ça peut fonctionner ?
Ah bah ça fonctionne très bien.
C'est compatible ?
C'est complètement compatible. On attend juste l'ordinateur.
Ah bah voilà, c'est ça qu'il faut mettre dedans. Oui. Alors justement, Jean-Baptiste demande, il aimerait connaître quelques exemples d'algorithmes très longs ou impossibles à être traités par l'ordinateur classique qu'on pourrait réaliser à l'aide d'un ordinateur quantique, ce qui va nous permettre de bien comprendre la différence au fond entre nos vieilles machines qu'on utilise et les promesses du futur.
Il y en a essentiellement deux à l'heure actuelle. Ce sont des algorithmes. Donc, ils ont été introduits dans les années 90, en 1994, Shor, et en 1997, Grover. Le premier, c'est un algorithme de factorisation. C'est-à-dire que vous prenez un nombre et vous le factorisez en produit de facteurs premiers. Donc, ça, c'est un algorithme.
Tout le monde suit là. Hein.
Je vous donne un exemple. Donc, 15, c'est 5 fois 3. Voilà. Donc, par exemple, si vous codez encore une fois, un certain nombre de protocoles de sécurité sont basés sur la difficulté de réaliser cette factorisation dans le cas des très grands nombres. Par exemple, si vous prenez un nombre de 400 chiffres, on estime qu'il faut 10 milliards d'années à partir des algorithmes que l'on connaît pour trouver tous ces produits de facteurs premiers.
Ah oui, c'est long.
Donc c'est long. Un ordinateur quantique, si on l'avait, ça prendrait 3 ans, basé sur l'algorithme de Shor.
D'accord.
Donc ça, c'est un premier exemple. Alors le plus gros qu'on ait réalisé au laboratoire, c'est 143 qu'on a factorisé et qui est 13 fois 11.
Donc c'est la rapidité de calcul déjà
c'est
qui distingue très
l'efficacité
nettement.
Du calcul elle, donc, qui conduit à la rapidité de calcul.
D'accord.
Donc ça, c'est un premier type d'algorithme. Et le deuxième, c'est un algorithme de recherche dans des listes qu'on appelle l'algorithme donc, de Grover. Voilà. Donc ça, c'est aussi rechercher dans une liste. Si vous voulez un ordinateur classique qui doit rechercher toutes les entrées de la liste, un ordinateur quantique ferait ça en parallèle, on en reviendra, on en discutera probablement tout à l'heure, et par conséquent, ce serait plus efficace, et on gagnerait, donc là, ça va devenir technique, comme la racine carrée du nombre d'éléments à chercher dans la liste. Donc, si vous en avez 9, ça irait 3 fois plus vite avec un ordinateur quantique.
Pascal Sénard, qu'est-ce qu'il faut alors comme ingrédient pour vraiment fabriquer cet ordinateur quantique? Et évidemment, je fais appel à vos travaux,
hein, alors,
qui contribuent directement à l'élaboration d'une telle machine.
Alors, ce que Antoine vient d'esquisser, c'est l'idée qu'on va pouvoir faire des choses en parallèle avec un ordinateur quantique. L'idée, c'est que dans un ordinateur quantique, dans un ordinateur classique, vous avez votre bit d'information élémentaire qui va valoir soit 0, soit 1.
C'est quoi le bit, rapidement?
Le bit, c'est le grain d'information qu'on va manipuler. C'est le petit transistor, c'est l'interrupteur dans votre ordinateur classique. D'accord? Mmh. On appelle ça un bit d'information. En quantique, on appelle ça un bit quantique. Dans un ordinateur classique, ce bit va prendre la valeur 0 ou 1, ou on-off, ou comme l'a fait introduit Schrödinger avec son chat, mort-vivant.
C'est ça, l'un ou l'autre.
L'un ou l'autre. Mmh. En physique quantique, le système va pouvoir prendre les deux valeurs en même temps. Mmh. Quand on dit les prendre les deux valeurs en même temps, c'est il va être à la fois l'un et l'autre, dans n'importe quel degré, c'est-à-dire qu'il va être, si je prends l'exemple de éteint allumé, on-off, il peut être un petit peu éteint, beaucoup allumé, ou un petit peu allumé, beaucoup éteint, mmh. et dans n'importe quel degré. Et donc, en fait, cette propriété très particulière...
C'est ce qu'on appelle le parallélisme quantique, en fait, qui est...
Voilà. Alors, en fait, comment on voit que ça devient parallèle? J'aurais envie de prendre l'image de... Si quelqu'un cherche à sortir d'un labyrinthe, vous mettez un humain au milieu d'un labyrinthe, il essaye de sortir, il va devoir essayer tous les chemins, puis il va prendre un petit carnet, puis il va rayer tous les chemins qu'il a essayé, puis il va garder la trace de tous les chemins, d'accord? Dans un ordinateur quantique, comme on va pouvoir superposer les différents chemins possibles...
Il va pouvoir tous les tester en même temps?
Il va pouvoir tous les tester en même temps, il va tout explorer en même temps, il va trouver du coup la sortie beaucoup plus rapidement. À la sortie, quand il sera sorti, il dira « je suis sorti », donc il vous dira « voilà, j'ai trouvé la solution ». Donc l'ordinateur quantique pourra faire ça de manière beaucoup plus efficace, de manière très puissante. Par contre, il ne sera pas capable de vous dire comment il a fait, il ne pourra pas retracer le chemin qu'il a suivi. Donc il y a cette espèce de parallélisme qui vient vraiment de cette superposition qu'on appelle la superposition cohérente des deux états.
C'est ça un ordinateur quantique?
Ouais, c'est ça.
Mais ce qui est difficile, quand vous m'avez demandé tout à l'heure quelle est la difficulté, eh bien c'est précisément de la conserver, cette superposition cohérente. Quand vous en avez un, donc Pascal a des systèmes comme ça au laboratoire, on en a dans notre laboratoire, on arrive à garder cette information pour les meilleurs laboratoires une seconde. Mais quand vous faites grossir la taille du système, cette superposition, elle s'effondre comme le nombre de particules que vous mettez dedans. Donc du coup, très rapidement, ça devient très fragile et vous perdez la puissance de ces corrélations.
Thibault demande justement dans ce message, dans le cas des sources lumineuses, comment est-ce qu'on arrive à produire des photons identiques?
Identiques ou imparables? Je réponds aux deux questions.
C'est identique.
Identique, ça veut dire... le photon, c'est le grain de lumière. La lumière de tous les jours qui est autour de vous, le néon, il émet les photons par paquet. Si vous étiez capable de zoomer, vous verriez qu'il émet les photons par paquet. Le laser, cette révolution qui a fait tous les progrès qu'on connaît, émet les photons de manière aléatoire. Des fois 2, des fois 1, des fois 3, des fois 0. Le photon dont on parle ici, c'est le photon émis un par un. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le grain de lumière élémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous identiques? Ça veut dire qu'ils ont exactement la même couleur, exactement la même forme spatiale, une certaine taille spatiale, une certaine forme temporelle. En gros, c'est ça.
Mais c'est-à-dire qu'on les confond? On ne peut plus les distinguer?
Exactement. L'intérêt, c'est qu'ils deviennent... On ne sait plus les distinguer. Ouais. Et donc, c'est quand vous en avez deux, c'est comme si vous en aviez deux fois un. C'est plus vraiment deux unités discernables. Ouais. On dit qu'ils sont indiscernables. Et c'est ce qui fait qu'ils deviennent des objets éminemment quantiques.
Et dans votre laboratoire, vous avez réussi une prouesse quand même, Pascal Sénard, il faut le dire.
Bon, alors, on arrive maintenant... un des enjeux de l'ordinateur... d'utiliser la lumière pour faire un ordinateur quantique, c'est justement de générer ces photons, un par un, et tous identiques.
Donc de façon indiscernable.
Voilà. Alors pourquoi on veut qu'ils soient indiscernables? C'est parce que quand ils sont indiscernables, en fait, ils vont se comporter de manière extrêmement non classique. Donc si je peux prendre une image, vous imaginez que vous envoyez deux photons qui arriveraient à un carrefour autoroutier.
Oui.
D'accord, vous avez deux entrées et deux sorties pour le carrefour. Vous mettez un photon dans chaque entrée, pardon.
C'est photon dans le micro.
C'était des photons dans le micro.
Ça fait beaucoup de bruit.
Et donc, dans un système classique, chaque photon va pouvoir sortir par l'une ou l'autre des sorties. Dans la physique quantique, si ces photons sont en fait complètement indiscernables, ils vont forcément sortir ensemble, soit d'un côté, soit de l'autre. Et en fait, ils vont sortir ensemble des deux côtés en même temps, mais toujours ensemble.
Ouais. Et pour obtenir ces photons identiques, alors vous êtes servi de quoi exactement?
Alors, nous, on utilise justement ce que je mentionnais tout à l'heure, les techniques de l'optoélectronique. Antoine, tout à l'heure, a rappelé comment on a été... progressivement arrivé au point où on était capable d'isoler un atome unique, ça reste quand même une prouesse expérimentale très complexe.
De l'autre côté, du côté des matériaux, on a pu réaliser des systèmes artificiels en faisant croître des matériaux semi-conducteurs, les mêmes qui sont dans les lasers, ouais. Semi-conducteurs. Et on peut faire en fait quelque chose qui ressemble à un atome, qui en fait est constitué de 10 000 atomes, mais qui se comporte comme un seul.
C'est ça.
Et donc, qu'est-ce qui génère des photons uniques en général ? C'est un atome unique. Donc autrefois, ça a d'abord été fait par un vrai atome unique piégé. Et maintenant, on est capable de faire la même chose avec un atome artificiel.
Et ça, Antoine Brouwer, s'il faut le dire, c'est une prouesse qui permet aussi d'arriver de plein pied dans la fabrication des ordinateurs quantiques. Hein. Ces travaux
oui, ce serait
de Pascal Sénard et de son équipe.
Ça, certainement. D'avoir des sources de photons uniques extrêmement brillantes, ça a plusieurs intérêts. C'est pour l'ordinateur quantique, mais aussi de façon plus générale, les gens envisagent déjà des réseaux de communication quantique. Donc, il faudra envoyer de l'information d'un point à un autre, de la même manière que vous envoyez l'information classique sur Internet. Donc, on aurait un peu l'équivalent. Et pour ça, on a besoin d'avoir ce médiateur de l'information et on code cette information quantique sur le photon. Donc, avoir des sources de photons brillantes, c'est essentiel parce que c'est ce qui permettra d'atteindre des flux importants.
When you go away, won't be following, though I know exactly where you'll be going. My hands are tied, through with begging. He tried to run the race, but we've already hit the finish. Let me go, let me go. Let me go.
Feels Like Me, c'était Cassius.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
L'ordinateur quantique avec mes invités Pascal Sénard, Antoine Brouwer et Benoît Valiron. Il y a beaucoup de questions des auditeurs. Cette question de François, pourquoi investir 10 millions de dollars dans un ordinateur quantique, Benoît Valiron?
Eh bien, peut-être pour la magie de l'objet.
Oui, mais sûrement, c'est une magie qui coûte cher quand même. Hein.
Mais surtout pour ses capacités. Donc, de fait, l'ordinateur qui a été acheté par Google et par un certain nombre d'autres institutions n'est pas un ordinateur universel, en ce sens que ce n'est pas un ordinateur qui permettrait de faire n'importe quel algorithme quantique. C'est une machine spécialisée pour répondre à des problèmes d'optimisation. Alors vous allez me dire à quoi ça sert des problèmes d'optimisation. Il y a quelque chose de très utile à l'heure actuelle, et Google est un bon exemple avec AlphaGo, avec leur résultat avec AlphaGo.
Donc c'est la fameuse histoire du jeu de Go, hein, ce joueur de Séoul contre la machine.
Tout à fait. Donc pour l'intelligence artificielle, et en particulier pour les réseaux de neurones artificiels, il peut être, de fait, ce type, la programmation en quelque sorte d'un réseau de neurones artificiels peut être vu d'une certaine façon comme un problème d'optimisation. Et donc Google est probablement intéressé à regarder dans quelle mesure donc cette grosse boîte à 10 millions de dollars peut être utilisée pour programmer ses réseaux de neurones de façon plus rapide.
Mais si ce joueur coréen, justement, avait eu en face de lui un ordinateur quantique, il aurait été absolument impossible qu'il gagne aucune partie ?
Alors, oui et non, parce que l'ordinateur quantique est aussi intelligent ou aussi bête que celui qui l'a programmé, en quelque sorte. Ça dépend ce qu'on lui fait faire. Il est possible de faire plus de choses à un ordinateur quantique qu'à un ordinateur classique, mais d'abord, ce n'était pas complètement certain. Et ensuite, il faut savoir comment le faire.
Antoine Brouwaïs.
Oui, je voulais juste rajouter quelque chose sur cette controverse d'E-Wave. Donc, pourquoi dépenser 10 millions d'euros En fait, ça fait une petite vingtaine d'années que les physiciens, les ingénieurs, les algorithmiciens nous disent quand on aura un ordinateur quantique, il y a des tas de choses qu'on saura faire, qu'on ne peut pas faire actuellement. Et là, vous avez une société qui vous présente un ordinateur soi-disant quantique et on n'arrive pas à décider si vraiment il fait une tâche quantique, si vraiment la physique quantique est nécessaire. Donc je pense que de cette controverse va forcément naître la redéfinition, on est obligé de pousser plus ce que veut dire l'information quantique. Donc du point de vue de la genèse et de la fabrication d'un ordinateur quantique, c'est en fait, ça vaut vraiment les 10 millions de dollars parce que ça nous reforce à réfléchir vraiment à ce qu'on avait promis toutes les communautés de physiciens qui travaillent là-dessus depuis 20 ans.
Ludovic nous dit, est-ce qu'un ordinateur quantique nous apprendra des choses sur la matière ou la physique quantique de par son comportement, par exemple, Pascal?
Alors ça c'est en fait la question nous emmène sur le terrain qui est un peu plus spécialisé que l'ordinateur quantique, qui est peut-être celui de la simulation quantique.
Ah ben justement une question de Sylvain, la différence entre simulateur et ordinateur quantique.
Voilà donc puisqu'on a encore du mal à faire un ordinateur quantique efficace avec beaucoup de bits d'informations élémentaires, etc., on est en train, et donc l'équipe d'Antoine est peut-être mieux à même que moi d'en parler, d'essayer de faire au lieu de calculer de simuler. Au lieu d'entrer les équations et demander à l'ordinateur de faire les calculs qui vont bien pour décrire la matière, parce qu'effectivement la matière c'est typiquement les systèmes qu'on a du mal à décrire, parce que quand vous avez trop d'atomes, vous ne savez plus. Et bien au lieu de faire vraiment des calculs, ce qu'on commence à réaliser c'est que avec les systèmes quantiques on va pouvoir simuler. Et au lieu de calculer, on va créer des expériences qui ressemblent, mais sur lesquelles on a un contrôle parfait, ce qui va nous permettre avec les propriétés quantiques, de comprendre des choses, effectivement, qui est, par exemple, les propriétés de la matière, etc., qu'on ne peut pas calculer avec un ordinateur classique.
Il y avait un deuxième aspect à la question, c'était qu'est-ce qu'on va apprendre sur la physique quantique ? Ben, en fait, on risque d'apprendre, ou de ne pas apprendre, que la physique quantique est peut-être une théorie limitée. C'est-à-dire que
cet
ordinateur quantique,
qui
est basé sur le principe de superposition, personne aujourd'hui n'est capable de vous dire s'il est vrai à notre échelle, puisqu'on ne l'observe jamais. C'est le fameux paradoxe que ceux qui ont déjà lu un peu de physique quantique connaissent, qui est le paradoxe du chat Schrödinger. C'est le chat peut être mort ou vivant, simplement cette superposition, vous ne l'avez jamais vue avec un chat, alors que nous, on la voit avec nos atomes.
Benoît Valiron, est-ce que le langage utilisé pour les ordinateurs quantiques sera complètement nouveau par rapport à celui qui est utilisé aujourd'hui ?
Alors, non. A priori, disons, les premiers langages qui sont développés à l'heure actuelle sont développés basés sur les algorithmes existants. Donc essentiellement des algorithmes développés soit par des physiciens, soit par des mathématiciens pour des études de complexité, pour savoir dans quelle mesure est-ce que un ordinateur quantique peut être plus rapide qu'un ordinateur, un algorithme quantique peut être plus rapide pour une tâche donnée qu'un algorithme classique. Donc ces algorithmes sont donc décrits sur le papier sous forme de formules mathématiques, de circuits ou de choses variées. Et donc l'objectif est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut formaliser tout ça en développant un langage. Et de fait, le langage est développé sur un ordinateur normal, puisque c'est quand même ce qui est le plus simple d'utiliser un logiciel, un environnement de développement normal. Et en fait, les algorithmes quantiques, c'est d'abord et beaucoup de classiques. D'abord, on récupère des informations classiques, puisque l'objectif, c'est de résoudre un problème classique. Donc, vous avez des données classiques en entrée, par exemple, le nombre que vous voulez factoriser. Il y a beaucoup de processing classique avant toute chose. L'algorithme quantique, il va s'appliquer dans un cas très particulier. Donc, d'abord, il y a beaucoup de cas à éliminer. Donc, tous ces cas-là, on va les éliminer avec un ordinateur classique, du processing classique. Ensuite, il va falloir générer la suite d'instructions élémentaires envoyées à l'ordinateur quantique. Et donc là, faut les générer, donc c'est encore du classique. La quantité d'instructions à envoyer dépend de la taille d'entrée. Et puis une fois qu'on a récupéré des informations, on a récupéré un flot de données de l'ordinateur quantique, et là il faut les traiter. Et là, on les traite de façon classique.
Bon,
donc il y a en fait
c'est
beaucoup...
un peu décevant. Mais...
Donc en fait,
c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Alors,
exactement.
Finalement,
donc en fait, il y a énormément de classiques.
Oui, on l'a bien compris.
Par contre, il y a la toute petite phase du milieu qui est la phase critique, qui est de fait est très intéressante et nécessite des développements de techniques spécifiques, mais qui s'intègrent au sein finalement d'un ensemble plus vaste et plus classique. Vous avez un besoin de mélanger les deux. Vous avez besoin d'avoir les objets classiques normaux des entiers, des listes, des ondes flottantes, etc. Et vous avez aussi besoin d'avoir des qubits. Et ce qui pose des questions intéressantes, puisque les qubits ne sont pas duplicables et que les objets classiques le sont.
Eh bien, nous en parlerons une autre fois, parce que là, en 20 secondes, ça va être compliqué d'aborder ce domaine crucial. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Nous sommes sur la route, sur la voie de l'ordinateur quantique, ça c'est évident.
On n'en a jamais été aussi proche, ça c'est sûr.
Absolument. Et ce sera pour très bientôt, certainement. Merci Pascal Celnard, Antoine Broweis et Benoît Valliron. J'invite les auditeurs aussi qui sont intéressés par le sujet à consulter le numéro de Science et Vie du mois de mars, qui justement faisait sa une sur l'ordinateur quantique. Merci beaucoup à tous les trois.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous vous êtes intéressé cette semaine à une question intéressante, l'impact des congrès de cardiologie sur la survie des cardiaques.
Absolument. Et en fait Mathieu, il ne s'agit pas de l'intérêt formateur de ces grandes réunions scientifiques. Non, il s'agit de savoir ce qu'il arrive aux cardiaques lorsque plus de 10 000 cardiologues américains désertent leur service hospitalier pour participer au grand congrès de leur spécialité.
Il n'y a que vous pour vous interroger là-dessus.
Non, c'est une équipe d'Harvard très sérieuse qui a décidé, pour répondre à cette question, de comparer la mortalité des cardiaques hospitalisés en urgence pendant ces congrès, c'est-à-dire en l'absence des cardiologues, ou hors période de congrès quand ils sont présents.
Bon, j'imagine qu'il vaut mieux éviter ces périodes pour faire un infarctus, non, quand même ?
Eh bien Mathieu, si on en croit les auteurs de cette étude, c'est tout le contraire.
Ah bon ? Comment ça alors ?
Aussi incroyable que ça paraisse, la mortalité d'un patient hospitalisé pour insuffisance ou arrêt cardiaque est significativement plus faible pendant les périodes de congrès.
Ça
et
alors.
Donc, lorsque de nombreux cardiologues sont absents. Et le pire, c'est que c'est encore plus vrai dans les grands hôpitaux universitaires que dans les hôpitaux secondaires.
Non mais ça a été publié un 1er avril, ça ?
Non, non, mais pas du tout, c'est vraiment un travail sérieux qui porte sur un suivi de 10 ans. Il a été publié dans le JAMA, une des meilleures revues médicales américaines, et les auteurs ont cherché avec obstination et intelligence tous les biais statistiques possibles. Réaliser des ajustements ? Eh bien rien, nada. La différence reste significative, la mortalité diminue nettement lors des dates des congrès et augmente dès la fin de ceci.
Bon, je trouve ça incroyable. Quelle est l'explication de ce paradoxe ?
Eh bien, les chercheurs d'Harvard constatent mais n'expliquent pas. Ils savent qu'un lien statistique n'est pas forcément une relation de cause à effet et se gardent bien de proposer une explication, à commencer par celle qui vient immédiatement à l'esprit, à savoir que les cardiologues universitaires seraient dangereux pour les cardiaques. Il faut dire que ce genre d'article peut être toxique pour la carrière de son auteur, inutile de rajouter dans la conclusion.
Vous en pensez quoi ?
D'abord que les Américains savent faire de l'humour scientifique de qualité avec un fond sérieux. Et j'invite les gens qui parlent anglais à lire la discussion de l'article, le lien est sur le site de France Inter, parce qu'ils évoquent plein de possibilités. Par exemple, que les cardiologues qui partent en congrès ne sont pas les mêmes que ceux qui restent pour soigner les patients. Donc il y a plein de pistes qui pourraient expliquer ça. Je pense qu'il serait quand même très intéressant d'observer les différences de prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë entre celle des cardiologues et celle des urgentistes. On est quand même face à une diminution de mortalité de 30%.
30%?
Oui, si c'était un médicament, on dirait c'est miraculeux.
Non, c'est énorme.
Et donc, on découvrira peut-être des choses tout à fait intéressantes. Ouais. Et puis, il reste la question que vous ne m'avez pas encore posée.
Bah, laquelle, Dominique ?
Eh bien, quand ont lieu les deux prochains grands congrès de cardiologie dont il est question dans l'article et qui attirent beaucoup de cardiologues universitaires français ?
Alors, il faut choisir quand, faire son arrêt cardiaque ?
Eh bien, ça sera du 12 au 16 novembre 2016, c'est bientôt, attention, pour le premier, et du 17 au 19 mars 2017 pour l'autre. À vous de voir.
Merci Dominique, et à la semaine prochaine.
À jeudi prochain.
C'est la fin de cette Tête au carré. Stéphanie Texier réalisait l'émission. Ludovic Asselot était à la technique et Thierry Dupin signait la programmation musicale. Dans un instant, vous retrouverez Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Et demain, vendredi, dossier consacré à la simplexité. Oui, oui, mais vous en saurez plus demain à 14h. Bonne journée.